Caucus avec Antonine Iacarini, c'est du lundi au jeudi. On commence toujours avec une petite intro des manchettes, le show, et par la suite, c'est Antonine Iacarini qui arrive immédiatement. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Anto, c'est grande rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale pour la session, on l'appelle quoi, hiver-printemps, j'imagine, vu qu'elle commence à l'hiver?
On n'a jamais de nom. On dit la session d'automne, puis après ça, c'est la session interminable.
Oui, parce que ça commence en fin.
Elle est interminable. Pour le staffer, là, les gens là, qui travaillent dans les cabinets,
ça, c'est,
là, putain, c'est interminable. Terminable.
Bien, aujourd'hui, on est 3 février, puis elle va terminer le 15 juin.
Exact.
Fait que c'est vrai qu'elle est interminable.
Il y a quelques semaines de relâche, toutefois,
mais c'est quand même, tu travailles dans les comtés, puis tu sais, ça n'arrête jamais la machine politique, même si on n'est pas à l'Assemblée nationale.
Puis là, cette session, moi, je vais la qualifier de très étrange. C'est une très étrange session parlementaire qui commence parce que, bien, premièrement, le Parti libéral revient avec, encore une fois, pas de chef.
Ouais.
Il va en avoir un bientôt. Mais même quand le Parti libéral va choisir son nouveau chef, qui devrait, en toute vraisemblance, être Charles Milliard...
Ça sera pas Mario, ouais?
Ça devrait pas.
OK.
Eh bien, il ne sera pas élu, M. Milliard. Donc, on va encore avoir un Parti libéral qui a un chef extra-parlementaire, comme Pablo Rodriguez était. Donc, on va avoir un chef parlementaire qui va être nommé. J'espère que la personne va prendre une meilleure décision que Pablo Rodriguez a pris.
Ben, l'avantage, c'est que, compte tenu qu'il n'y aura pas de course à la chefferie, il ne risque pas d'avoir de brownies dans cette course-là.
Oh, on part déjà avec un avantage. Pas les libéraux.
Mais c'est fou, même dans ces commentaires-là, maintenant, on est encore dans « on sait jamais ».
Écoute.
C'est terrible pour un parti, non?
Puis de toute façon, même si on parle seulement des brownies du passé, que ça fait pas si longtemps que ça, même pas un an, cette histoire-là, bien, les enquêtes sont toujours en cours. Donc là, on fait le bilan. Le Parti libéral n'a pas de chef. C'est encore Marc Tanguay qui va avoir été quasiment chef pendant toute la législature,
Oui, exactement. Puis là, des enquêtes qui vont nous tomber dessus, on va être encore obligé de se défendre. Ouais, mais là, vous savez, là, c'était ça, ça s'est passé dans l'équipe à Pablo, parce que là, l'équipe à Pablo, on va tout envoyer là.
Et ajoute à ça, Marois Risky, situation complètement... Oui.
Qui est de retour aujourd'hui.
De retour aujourd'hui.
Pas dans le caucus libéral.
On apprend des affaires via la poursuite.
Oui.
Parce qu'il y a une poursuite, elles se poursuivent l'une l'autre.
Ben oui. Hey, Pablo, toi, Pablo dans le bureau d'une députée. Toi, ah ouais, il y a le cash circulé, les cartes de membres. Let's go, dans un bureau de l'Assemblée nationale.
Et là, Marois Risky doit éventuellement avoir des discussions avec le nouveau chef pour savoir si elle réintégrera. Et là, je fais le lien avec un autre élément qui est sorti dans l'actualité cette semaine, grande entrevue, portrait sur Pablo Rodriguez, qui s'était entendu ça, entre l'actualité et M. Rodriguez avant toute la crise. Et là, finalement, ce portrait-là n'est plus le portrait du chef du Parti libéral, mais bien du chef déchu du Parti libéral. Et on apprend dans le portrait de Pablo Rodriguez qu'il considère qu'il a été victime d'un coup d'État.
Ouais, un coup d'État.
Rien de moins. Bon, mais putsch, là... putsch, je suis d'accord, coup d'État, on se calme.
Ouais, là, coup d'État. Écoute, les Brownings, c'est la même députée dans laquelle il s'est retrouvé dans son bureau à l'Assemblée nationale avec de l'argent sur la table.
Sonna Lacoyanne.
Exactement, pour des cartes de membres. Pablo Rodriguez s'est retrouvé chez un autre organisateur libéral où il y avait des prête-noms.
Emmanuel Cabral,
c'est ça.
Pardon.
Mais lui, il ne savait pas.
Il ne sait rien.
Fait que là, tu sais, le coup d'État, puis d'après moi, tu vas être d'accord avec moi, cet extrait-là, cette citation-là de Pablo Rodriguez lorsqu'il a annoncé sa démission, avec qu'est-ce qu'on commence à savoir de plus en plus, va très mal vieillir. On l'écoute à l'instant.
Toujours agi avec authenticité, intégrité.
Oh, intégrité?
Oups. Et éthique.
Éthique?
Toujours. En dépit de ça, je suis devenu, malgré moi, une distraction. Et le Parti libéral mérite qu'on parle de ses projets, de son plan d'avenir. Le Parti libéral du Québec mérite qu'on parle de lui, pas de moi.
Ça, je suis d'accord.
Alors, c'est pourquoi j'annonce aujourd'hui ma démission à titre de chef du Parti libéral du Québec.
Antonine, tu connais la politique plus que moi parce que tu as travaillé à l'Assemblée nationale. Si tu as été dans un bureau où de l'argent circulait sur le bureau avec des cartes de membres à l'Assemblée nationale, tu peux pas te présenter. Puis là, c'est pareil à la Chambre des communes, là, parce qu'il venait d'Ottawa. Là. Tu peux pas te présenter dans une conférence de presse puis dire « J'ai toujours agi avec intégrité et éthique. »
Bon, d'abord, tu dis que je connais plus la politique que toi, que j'ai travaillé en politique. C'est vrai que j'ai travaillé en politique, mais j'ai jamais été au Parti libéral. Et malheureusement, je suis obligée de dire que la culture au Parti libéral est très différente de celle au PQ.
Okay? Ah, ça, je suis...
Puis, j'ai plein d'amis libéraux, dont certains qui ont travaillé à l'époque Charest, et m'ont raconté toutes sortes d'affaires. Donc, je referme le chapitre. Moi, je ne peux pas te dire comment tu agis quand il y a de l'argent cash qui circule dans des campagnes. Je n'ai jamais vu une chose pareille de première main. Maintenant, évidemment, il y a beaucoup de fantômes là, entourant cette histoire-là. Puis, on le disait tantôt, il y a des enquêtes qui sont en cours. On va avoir les conclusions des différentes enquêtes à différents moments. C'est un peu incontrôlable pour le Parti libéral en année électorale. C'est terrible. Je vais te donner mon interprétation de ce qui s'est passé avec les pièces de puzzle qu'on a grappillées une après l'autre grâce au travail des journalistes notamment. Je pense que Marois Risky a été nommé par Pablo Rodriguez parce qu'il lui faisait confiance. Trop confiance. Puis ça, c'est un des éléments qui ressort aussi du portrait de l'actualité. C'est que M. Rodriguez fait aveuglément confiance quand il fait confiance. C'est gentil, là, mais ça ne devrait pas être ça en politique. Si tu es chef, tu es imputable. Et si tu es imputable, tu dois vérifier, surveiller et être vraiment en charge des choses. Il faisait très confiance à sa directrice de cabinet, Geneviève Hinz, qui l'a nommé comme étant son point de contact à l'Assemblée nationale, parce que lui n'était pas chef parlementaire, il n'est pas élu. Donc, c'était sa personne de confiance. Et là, la bisbille pogne entre Marois Risky et Geneviève Hinz sur des questions éthiques. Ces questions éthiques-là, moi, je ne jette pas des pierres tout de suite là-dessus parce que c'est des enjeux qui reviennent régulièrement dans toutes les ailes parlementaires. Qu'est-ce qu'on utilise pour le chef, surtout un chef extra-parlementaire?
Tu nous l'as bien expliqué hier.
Absolument. Donc, elle se chicane et parallèlement à ça, là, l'histoire des brownies arrive parce que ça circule depuis des mois, cette affaire-là. Et Marois Risky était présente à l'inauguration du REM à Deux-Montagnes quelques jours avant que tout ça là, explose. Et elle rencontre le député fédéral Faisal El-Khoury, avec lequel elle a une conversation qui nous est rapportée. Et il faut savoir, le député fédéral Faisal El-Khoury, il y a eu beaucoup de malversations qui ont été rapportées autour de son investiture dans sa circonscription fédérale. Moi, je pense, et c'est une hypothèse, on verra si elle se confirme un jour, que Marois Risky s'est dit « Non, je ne veux pas être associée à tout ça.
Mm-hmm. »
OK? Et là, au lieu, elle était devant un choix. Elle aurait pu impliquer Pablo Rodriguez et dire « Écoute, Pablo, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on fasse le ménage, il faut qu'on règle certaines choses. » Je ne sais pas quel genre de discussion elle aurait pu avoir, mais elle aurait pu l'impliquer. Elle a choisi de le « blindsider » en bon français, c'est-à-dire prendre une décision toute seule, ne pas l'impliquer et après ça, se terrer dans le silence. Donc, quand Pablo Rodriguez dit qu'il est victime d'un putsch, c'est pas un putsch pour prendre sa place. C'est un putsch dans le sens indirect, c'est-à-dire tu le sais que ton chef ne survivra pas avec la manière dont tu as géré le renvoi de sa directrice de cabinet et ensuite de ne lui donner aucune information et c'est la situation dans laquelle il s'est retrouvé et ses faiblesses ont évidemment apparu. Je pense que Pablo Rodriguez était trop candide et trop naïf, un, pour être chef de parti à Québec, qui est beaucoup plus dur qu'à Ottawa en passant.
Je suis très d'accord avec ton analyse.
Et pour être chef d'un parti qui, visiblement, dans lequel là, il faut toujours faire barrage à des gens qui ont une éthique très discutable. C'est comme s'il fallait constamment surveiller. Moi, personnellement, si je faisais une course à la chefferie puis qu'on m'invitait chez un monsieur qui a des 100$ qui circulent, je me dirais, sauve-toi.
T'es en train de te dire que toutes les personnes concernées dans le dossier auraient dû avoir le flair minimum face à une situation comme celle-là.
Et quand t'es un politicien ou une politicienne, il y a des gens, des fois, qui vont vouloir prendre des photos avec toi, qui vont vouloir s'associer, qui vont vouloir t'aider, puis tu dis, non, pas le genre d'ami que je veux, OK? Mais quand t'es un candide, là, comme Pablo Rodriguez, puis que tu fais confiance à tout le monde autour de toi, bien, c'est ce que ça peut donner par moment. Donc, moi, je pense pas que Pablo Rodriguez a orchestré une grosse arnaque magouille. Là. Mais je pense qu'il a manqué énormément de vigilance et que ça démontre qu'il n'y avait pas nécessairement ce qu'il fallait pour gérer le Québec. Pas capable de gérer ton parti.
Est-ce que ça expliquerait pourquoi, lors des premiers points de presse, suite à tous ces scandales-là qui sortaient, il ne savait pas trop quoi dire puis il disait « je vais aller faire des vérifications ». Donc,
rien.
Il était peut-être honnête, sincère, mais en arrière de ça, il savait groupiller.
Donc, quand... Je reviens à l'extrait que tu mettais. Il dit « avec intégrité ». Je le crois, mais je pense qu'il ne l'a pas fait avec compétence.
Ah, je pense que la négligence... Moi, j'aime ton bémol.
La
j'aime
négligence
vraiment.
Est vraiment grave mm-hmm. et répréhensible.
On ne doit pas pardonner ça, on ne doit pas faire avec.
Non,
on doit tasser puis se dire, ben malheureusement, échec et mat.
Puis, en terminant sur le Parti libéral, quand Marois Risky a dit à Pablo Rodriguez, si c'est pas des fling-flang, à Québec, c'est pas des fling-flang comme à Ottawa, elle a tellement raison, parce que Faisal El-Khoury, je vous dis, est encore député. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas rien, il n'y a aucun problème. Mark Carney s'en fout complètement. Puis on passe à un autre appel. Voyez-vous la différence ouais. de culture
ben
entre
oui,
Ottawa et
Québec?
Ben oui,
il y a tellement de différence de culture. Ce que tu es en train de nous raconter, Antonine, ça me fait beaucoup penser à ce qui s'était passé. Tout le monde en parle entre Pablo Rodriguez et M.C. Gilles.
Oui, mais Monsieur Rodriguez, vous voulez devenir premier ministre? On s'entend?
Oui.
Dans une campagne électorale?
Je vais devenir premier ministre. On pourra s'en parler par la suite.
Ouais.
Oui, allez-y.
Vous voulez devenir premier ministre, donc vous allez gérer des crises, un. Et oui. deux, vous allez représenter les 8 millions de Québécois. La question que tout le monde se pose en ce moment, là, si vous n'êtes pas capable de gérer 20 députés libéraux parce que la chicane est pognée dans la cabane, comment vous allez faire pour être premier ministre, gérer des crises?
Jeannet, merci, M. Gilles, pour la question, c'est très gentil.
C'est un plaisir.
J'en ai géré énormément de crises tout au cours de ma vie. N'oubliez pas que j'ai été élu 6 fois dans une élection générale. J'ai été nommé au cabinet, au conseil des ministres, 4 fois.
Mm-hmm.
Jamais mon intégrité n'a été remise en doute. Et des défis à l'interne, je gérais au fédéral des ministères de milliards de dollars, dont la culture. Jamais on a remis mon intégrité.
Ouais, c'était pas l'extrait que je voulais. Je pensais que cet extrait-là, c'était l'extrait où il disait « Les libéraux sont revenus à la maison ». Et M.C.
Oui.
Gilles lui disait « Ouais, mais ça, ça me fait peur. »
Exactement. Les vieilles mains libérales.
Oui, et c'est exactement ce qui est arrivé. Parce qu'on a revu plein de donateurs libéraux se refaire autour de Pablo Rodriguez.
Absolument. Hein. Et il faut qu'un nouveau chef, là, c'est un gros drapeau jaune pour Charles Millard qui va reprendre ce bateau-là. Là.
Bon, il avait posé la question en entrevue. Moi, j'avais dit, bon, vous parlez de votre équipe. Ça sera quoi, votre équipe? Qui seront les gens dans l'intérieur de votre équipe? Puis il avait dit qu'il allait aller voir à l'extérieur. Fait qu'on voyait un petit peu la réponse de M. Millard par rapport à ça. Pas qu'il allait sortir tout le monde, mais qu'il allait avoir quand même une sélection serrée, on dirait, sur ses candidats.
En tout cas, on lui souhaite. Parce que honnêtement, déjà juste de gérer les conclusions des enquêtes et cette situation complètement bizarre avec Marois Risky. Bonjour l'ambiance là, en ce moment.
Oui.
Donc, tout ça pour dire que la rentrée des libéraux est un peu gâchée, là, déjà, même peu importe ce qu'on voudrait dire. Et là, ce que ça me fait passer du côté de la CAQ.
Bien sûr!
C'est le parti qui est au gouvernement.
Oui!
Et on a une course à la chefferie. Qui commence dans laquelle il y a un petit peu de piquant, d'ailleurs.
Ah, est-ce qu'on écoute Christine Fréchette qui a répondu à Bernard Drainville? Moi, j'aime ça, je suis canon politique.
C'est totalement faux et je suis vraiment déçue qu'il utilise ce type d'informations-là pour expliquer qu'il soit en retard dans la course. C'est faux, je n'ai pas obtenu d'informations confidentielles. Il le sait très bien et en tant que journaliste, je crois que ce serait souhaitable de ne pas utiliser ce type de ne pas faire ce genre d'affirmation.
Les couteaux volent bas.
Ouch!
En tant que journaliste, c'est
pas
totalement
rigoureux.
Faux, pas rigoureux. Mais là, c'est pas Christine Fréchette la semaine passée qui a dit oh, ouais, moi je l'ai su une semaine à l'avance de Martin Koskinen.
Ben en fait, ce qu'elle dit, c'est que elle nie pas qu'elle a eu certains indices.
Ben oui, non, parce que hey, Christine, ouais, OK, on le dit pas à personne, mais à toi, là, on te dit prépare-toi.
Mais tu sais, Jeff, ça faisait un an qu'on disait que le PM allait éventuellement démissionner. Je veux dire, ça prenait-tu la tête à Papineau pour comprendre que si tu veux devenir chef de la CAQ, t'es aussi bien d'un petit peu se préparer?
Ben oui.
Puis ce que Mme Fréchette dit, puis ce qu'on entend aussi en coulisses, c'est qu'elle a voulu y aller à visière levée. C'est-à-dire qu'elle a rencontré Martin Koskinen, elle a dit « Peu importe ce qui arrive, là, moi, je vais me préparer parce que ça m'intéresse, la chefferie de la CAQ. Je vais pas pousser M. Legault nécessairement dans la falaise. »
Mais là, Koski, il a dit c'est une bonne idée de te préparer. Mais tu l'es pas personne.
Et ce qu'on entend aussi, c'est que si M. Drainville avait demandé la même rencontre, il aurait probablement obtenu les mêmes informations. Bon, là, rendu là, je voulais juger si c'est crédible
minute,
ou
là.
Pas.
Moi, j'oublie pas ma guerre Montréal-Québec à l'intérieur de la CAQ, là.
C'est vrai, t'as bien raison, parce que la gang autour du
premier
ministre... On
l'aurait pas donné à Bernard, ça, cette information-là.
T'as bien raison. Alors, elle se dit déçue et elle l'accuse de manquer de rigueur. Et c'est drôle, hein, parce que des courses à la chefferie, vous remarquerez que quand elles sont très, très serré, OK? Là, on ne sait pas qui va gagner. Souvent, c'est plus sale un peu comme course parce que là, vraiment, il y a un enjeu. Quand c'est pas serré pantoute, comme par exemple la course où Mark Carney a été élu au fédéral, tout le monde fait un petit peu attention.
C'est la course où Chrystia Freeland parle un peu en anglais, exact. Mais trompe-toi, parle en anglais.
En français, tu veux dire... La Québec et
Le Québec, Marc, Québec. Vas-y.
Merci,
on
Chrystia.
Est en débat des chefs, mais vas-y, parce que c'est toi le futur chef.
Exactement. Les gens vont préserver le futur chef, parce qu'ils savent bien qu'ils vont aller à la guerre après avec ce général-là. Fait qu'ils veulent pas y arracher une jambe et un bras avant de partir à la guerre. Là, on a eu des sondages récemment qui montraient que Christine Fréchette avait quand même une avance non négligeable.
Écoute, la CAQ dépasse les libéraux dans les sondages avec Fréchette.
Mais qu'à cela ne tienne, Bernard Dréville ne veut pas préserver Christine Fréchette et laisse entendre qu'elle est la candidate de l'establishment.
Oui.
Pourquoi c'est important, ça? C'est parce qu'il veut laisser croire que M. Legault, qui disons, très impopulaire, qui est lié aux résultats dans les sondages. En fait, Mme Fréchette, c'est la continuité de François Legault et que Bernard Drainville, lui, est le candidat du changement qui va poser des gestes de rupture. Bon, je trouve que c'est un peu un long shot pour M. Drainville. Je lui trouve beaucoup de qualités et beaucoup de compétences à M. Drainville, mais de là à apparaître comme la nouveauté et le vent de changement, c'est sûr que face à une Christine Fréchette qui est beaucoup moins connue, Bernard Drainville, tout le monde a déjà une opinion sur Bernard Drainville. Mm-hmm. C'est pas un nouveau venu sur la scène politique. Mais étant donné justement qu'il y a une tendance qui est établie et que Mme Fréchette semble avoir un peu d'avance autant dans les sondages que dans les appuis, M. Drainville n'a pas d'autre tactique devant lui que de brasser la cage pour essayer justement de mêler un peu les cartes. Donc, une autre entrée, si on parle de celle de la CAQ parlementaire, qui est quand même un peu bizarre. Et pendant ce temps-là, il y a un premier ministre, François Legault.
Oui.
Qui est celui de qui les gens veulent plus ou moins se détacher dans la course. Et M. Legault veut continuer à gérer le Québec et veut livrer certaines choses avant de quitter, alors que des candidats qui vont prendre des positions peut-être des fois différentes sur certains enjeux. Et M. Legault veut déposer un budget avec son ministre des Finances, Éric Girard, qui risque de menotter un peu, d'attacher les mains du prochain chef jusqu'à la campagne électorale. Bref, c'est vraiment bizarre comme période politique.
Je termine avec une question. On n'écoutera pas l'extrait, mais Simon-Jolin Barrette, sur les ondes de Mario Dumont aujourd'hui, a dit « On a la légitimité de gouverner parce qu'on a été élu par la population.
Mm-hmm. »
On dirait que j'y crois plus, moi. T'sais, plus
la
de premier ministre, 17 personnes qui ont annoncé leur départ ou qui sont déjà parties.
Ils sont tellement fragmentés que c'est plus la même équipe. Ben, donc la
exactement.
La légitimité, c'est pas seulement... l'appui du peuple aux 4 ans. Hein. La légitimité, c'est différentes choses. Moi, tu sais, par exemple, si on parle de Simon-Jolin Barrette, il a un projet de constitution en ce moment. Une constitution, il faut aller chercher de l'adhésion. Je trouve que le contexte n'est vraiment pas très bon présentement pour ça. En plus, il y a des éléments dans ce texte-là qui font débat, notamment sur l'avortement, mais aussi sur le droit de certaines organisations à poursuivre le gouvernement ou à contester certaines lois. Honnêtement, je serais très surprise que les oppositions laissent passer ça. Oui, la CAQ est majoritaire, mais ils peuvent vraiment perdre du temps en commission parlementaire, faire ce qu'on appelle du filibustering, c'est-à-dire continuer, prendre tous les temps de parole, demander des amendements, puis là, tu fais toutes les gimmicks pour que ce soit le plus long possible. Et pour s'en sortir, le gouvernement doit imposer un baillon pour réussir à se sortir de ça. Et passer une constitution sous baillon, ça n'arrivera pas.
Non.
Donc, moi, je pense pas que ça va aboutir, ce projet-là. Mais vraiment, c'est une situation qui est très étrange pour la CAQ et le premier ministre va devoir se lever, répondre aux questions en chambre, va devoir prendre position le matin sur l'actualité.
Alors qu'il n'y a plus de crédibilité.
Ben, puis aussi, c'est que des fois, il risque d'être plus en phase avec un candidat, des fois avec un autre. Comment tu fais pour faire ces arbitrages-là? C'est vraiment très bizarre. Et d'après moi, ce ne sera pas la session parlementaire la plus productive au niveau législatif, politique, public.
Mais je pense en même temps, je conclue là-dessus, que c'est correct comme ça, même si j'aime quand les choses avancent, parce que tu sais, ce gouvernement-là peut pas faire des grands projets de loi qui vont changer la nation et la société.
Mais ça, ils n'ont pas la légitimité pour le faire. C'est tout simplement ça. Et on se demande honnêtement pourquoi le premier ministre n'a pas prorogé, c'est-à-dire mis l'Assemblée nationale sur pause. Oui, parce qu'il voulait montrer une certaine continuité, mais ça risque de créer vraiment des situations absolument malaisantes. Donc, évidemment, ça va nous faire beaucoup de sujets pour nous à aborder. Puis, quand la course à la chefferie va être terminée, il va rester quelques semaines à la session parlementaire.
Oui.
Et après, c'est l'été, c'est la pré-campagne électorale.
C'est la campagne électorale, exactement. Caucus avec Antonine Iaccarini chaque jour dans l'émission Dans Jazz du lundi au jeudi. Anto, t'es en congé demain, c'est l'ami Victor Henriquez qui va te remplacer.
Vous êtes entre bonnes mains.
Yes, donc on se reparle jeudi. Pascal, après la pause, on va parler avec la DG de la Société de développement commercial au niveau de Montcalm, donc Marie Langlois. On va parler de sa rencontre hier à huis clos avec la Ville sur les travaux du tramway et aussi de ses citoyens qui veulent que l'avenue Cartier soit piétonne. Et également, on va parler avec notre chroniqueur Irénée Rutema. On ne parlera pas de politique municipale avec Irénée exceptionnellement cette semaine, mais on va plus parler du mois de l'histoire des Noirs avec lui. Donc, on a parlé hier de sensibilisation, la Semaine nationale de prévention du suicide, et là, on va parler du mois de l'histoire des Noirs. Donc, restez avec nous après cette courte pause à l'émission. On en jase.